Radio Kapi.
Oh, Kapi.
J'active Molima pour le journal.
L'idée de la pétition initiée en vue d'obtenir la candidature du cardinal Laurent Mossengo à la présidentielle du 23 décembre, rejetée par le comité laïque de coordination. D'après le porte-parole de cette structure, cette initiative risque de distraire la population. Des pêcheurs congolais victimes des exactions de la part des hommes armés identifiés comme des Ougandais, cela se passe sur le lac Albert en Ituri. Le dernier cas en date s'est déroulé dans la nuit de mardi à hier mercredi. 4 pêcheurs avec 45 kg de poissons ont été appréhendés. Et puis l'invité de ce jeudi sur Radio Capi, sur le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, appelle la population à dénoncer les candidats à la députation provinciale qui sont en conflit avec la loi, notamment les agents fonctionnaires de l'administration publique, les mandataires actifs dans les établissements publics. Et voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Le comité laïque de coordination rejette l'idée de la pétition initiée en vue d'obtenir la candidature du cardinal Laurent Mossengo Passigna à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le porte-parole de CICLC l'a exprimé hier à Radio Capi. D'après lui, cette initiative risque de distraire la population sur les revendications importantes que le CLC pose pour le respect de l'accord et la tenue d'une bonne élection en République démocratique du Congo. Jonas Tiombela est joint au téléphone par Askin Zigatayoro.
Au niveau du comité laïque de coordination, le CLC en sigle, cette question n'a pas été au rendez-vous. Nous la percevons comme si c'est une façon de nous amener à la distraction pour nous débrancher sur le réel problème qui se pose au pays des élections. À notre humble avis, nous craignons que cette action soit mise en place pour démobiliser les gens pour les actions qui sont prévues par le CLC pour réclamer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et aussi le respect de la Constitution, notamment la question problématique du troisième mandat du président sortant.
Est-ce que le CLC a pris quand même contact avec le cardinal pour en savoir plus?
Nous n'avons aucune indication de l'Église qui nous indique que le cardinal serait dans ce chemin-là. Lorsque nous voyons la dernière déclaration de la conférence épiscopale, elle est claire sur la question des élections dans notre pays et nous craignons qu'elle soit juste monter pour distraire l'opinion et nous débrancher sur l'essentiel, alors que le peuple congolais tient à tout prix à avoir des élections inclusives d'ici la fin de l'année.
Sachez qu'au début de cette semaine, la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement avait initié une pétition demandant au cardinal Laurent Mossengo de poser sa candidature à la présidentielle et que le cardinal lui-même ne s'est pas encore prononcé sur cette demande. Délégués des partis politiques, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition, y compris ceux de la société civile, se sont retrouvés en atelier hier au CEPAS, ici à Kinshasa. Au menu de cet échange, comment mettre en œuvre les recommandations de l'audit du fichier électoral en vue de permettre la tenue des élections apaisées dans le pays. Cette rencontre a été initiée par deux organismes internationaux que sont NDI et Counterpart. Dani Aïda, directeur résident de NDI, explique le résultat attendu de cette rencontre. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons décidé de joindre nos efforts pour permettre à nos partenaires qui sont la société civile et les partis politiques d'échanger autour des recommandations de l'audit du fichier électoral qui s'est déroulé dans le pays au mois de mai dernier. Et vous savez qu'un certain nombre de ces recommandations se rapportent au fichier électoral et à sa capacité d'amélioration en allant vers les prochaines élections prévues en décembre 2018.
Et vous attendez à quels résultats?
Voilà. Vous savez qu'il y a des recommandations qui sont adressées à ces acteurs-là et ils sont aussi en relation avec la CENI. Donc, il est question non seulement pour ces participants d'harmoniser leur vue sur les recommandations, mais également de faire le travail de suivi auprès de la CENI et des autres acteurs du processus pour s'assurer que les réponses attendues de la part de ces partenaires du processus arrivent au bon moment, et ceci dans le but de créer les conditions les plus favorables au déroulement des élections attendues dans le pays.
Comme dit tout à l'heure, la télé initiée par NDI sur l'audit du fichier électoral a connu la participation de plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, y compris ceux de la société civile. Parmi les participants, il y avait notamment Félix Tshisekedi de l'UDPS, Jacques Joly du MLC, François Nzekouye du PPRD et Rose Mutombo de la société civile. Pour les opposants, la CENI devrait clarifier la question des 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale, alors que la majorité présidentielle s'en tient sur la date du 23 décembre 2018 pour la tenue des élections. Michel Kifindangoy.
Au cours des échanges,
L'opposition politique a fait observer qu'il n'y aura pas élection apaisée tant que les recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie sur l'audit du fichier électoral ne sont pas observées. Martin Fayoulou de la dynamique de l'opposition.
L'OIF a dit que le fichier était perfectible. Et pour rendre fiable les fichiers, l'OIF a fait certaines recommandations. Et c'est ce que nous demandons parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec un fichier qui contient plus de 10 millions d'enrôlés fictifs.
Parler du fichier électoral aujourd'hui n'est pas vouloir des élections, estime la majorité présidentielle, qui pense qu'il n'y a pas d'amalgame entre fictifs et personnes enrôlées sans empreinte digitale. Gilbert Mouika, coordonnateur de la centrale électorale de la majorité présidentielle.
Ces gens dont les empreintes digitales sont illisibles sont des citoyens congolais. Au niveau de la majorité présidentielle, nous avions proposé qu'on revienne au cas par cas. Parce que s'il n'a pas un doigt, il n'a pas deux doigts, au moins il a son visage et la photo est là.
Alors que la société civile recommande qu'un cadre de concertation soit mis en place pour dissiper toute divergence, certains regroupements d'opposition, comme la nouvelle initiative pour le Congo de Florentin Mokonda Bonza, s'est dit non partant pour un processus qu'il qualifie de vicieux et porteur de germes des conflits.
Et puis cette réaction de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, qui qualifie la décision des animateurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, d'excès de zèle. Pour rappel, le CESAC a demandé aux journalistes qui ont postulé aux élections provinciales et législatives de quitter la corporation. Selon Joseph Boukar Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, le CESAC n'a aucune qualité pour prendre cette décision. Il est dit au micro de Paul Matindo.
Le CESAC n'a aucune qualité pour le faire, parce que les journalistes sont gérés par l'UNPC. Ça, c'est un. De deux, lorsque quelqu'un a postulé, cela ne veut pas dire qu'il est déjà élu. Donc, il n'y a aucune raison pour demander à quelqu'un qui dépose sa candidature quelque part et de lui demander d'arrêter de prester comme journaliste. Tous ceux qui postulent ne peuvent abandonner la profession que lorsqu'ils sont élus. Le métier de journaliste, c'est une profession libérale. Donc, tant que le journaliste n'est pas encore élu, il continue à prester. Et à un moment donné, lorsque la campagne va commencer, le journaliste lui-même va se trouver dans une position où il n'est plus à mesure et de prester et de mener la campagne. Et de lui-même, il va arrêter. Mais à l'état actuel des choses, imaginez-vous par exemple que le 23 décembre, on dise les élections sont reportées d'une année. Mais le journaliste qui aura déjà démissionné, quel sera son sort? Ce que les autres font là, c'est un excès de zèle.
En Ituri, 4 pêcheurs congolais ont été arrêtés avec 45 kilos de poissons et leur matériel de pêche ravis par des hommes armés identifiés comme des Ougandais, nous l'avons dit au sommaire. C'était dans la nuit de mardi à hier mercredi sur le lac Albert. L'un d'entre eux a été torturé selon des sources locales qui le rapportent. Ce dernier est admis aux soins dans une structure médicale dans la région. Sadiki Aboubakar explique les faits.
Un journaliste de la région témoin de l'événement rapporte que ces Congolais du camp de Kanyanza étaient en pleine activité de pêche pendant la nuit quand ils ont vu débarquer des sujets ougandais bien armés. Certains ont réussi à s'échapper, mais les quatre à bord de deux pirogues de pêche ont été appréhendés. Ces hommes armés ont ensuite ravi tout le poisson pêché par les Congolais ainsi que leur matériel de pêche dont des filets. Partant de leurs échanges en Swahili, les victimes pensent qu'il s'agit d'un acte de vengeance car leur bourreau aurait dit que les Congolais les font souffrir sous le lac. Le technicien de pêche sous le lac Albert confirme cette situation. Justin Vouaweka affirme qu'il s'agit des bandits, des fois armés de fusils et d'armes blanches. C'est depuis environ 2 semaines qu'il constate ces actes de banditisme armé en provenance de l'Ouganda. Nous n'avons pas réussi à joindre le commandant de la force navale congolaise de Kasenyi à ce sujet. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, l'association sans but lucratif, les ambassadeurs de bonne volonté, demande au gouverneur de l'Ituri d'abroger son arrêté portant réglementation de la pêche en province de l'Ituri. Selon cette structure, cet arrêté est devenu un fonds de commerce pour tracasser, voire tuer les pêcheurs dans les territoires de Mahagi, Rumu et Djougou. Sylvain Agenouar, ancien directeur pays de cette ASBL, dit avoir fait le déplacement de Bounia à Kinshasa pour plaider cette cause auprès des autorités nationales. On l'écoute.
Lorsque vous lisez l'arrêté veut dire qu'il veut protéger les produits halieutiques, ou disons d'une manière générale, le lac Albert. Personne n'est contre ça, mais comment cela s'est fait? Non seulement il y a les arrestations, les tracasseries, ça veut dire les rassemblements financiers dont fait montrer les agents techniques de la pêche. Il y a les tueries Souvenez-vous que ça faisait quelque temps, on a tué plus de 3 pêcheurs et on a blessé plus de 4. Eh bien, voyez ce que ça présente. Ce qui apparaît grave, comme atteinte d'ailleurs à la sécurité de l'État. Cet arrêté est en train de contraindre cette population pêcheresse de quitter le pays. Pourquoi ? Nous partageons un même lac avec la République de l'Ouganda. Lorsque nous nous réglementons et que de l'autre côté la réglementation ne se fait pas, les contraintes que nous avons chez nous au Congo, on ne les trouve pas en Ouganda, eh bien, la population se dit que notre gouvernement est prêt pour nous tuer, nous irons du côté de l'Ouganda, et nous nous disons comme ambassadeurs de bonne volonté, patriotes que nous sommes, il faut que cet arrêté soit corrigé.
En réaction, le gouverneur de l'Ituri, qui dit ne pas reconnaître l'existence officielle de cette ASBL dans sa province, affirme que cet arrêté ne sera pas abrogé. Abdallah Penembaka soutient que l'objectif de cette décision est de protéger le lac Calvaire. Toutefois, il demande aux ONG de dénoncer les abus afin que leurs auteurs soient sanctionnés. On l'écoute.
La réglementation des pêches s'impose plus que jamais sur le lac Calvaire. Nous ne voulons pas vivre l'appauvrissement du lac Calvaire comme les autres lacs. Je vais citer les lacs Édouard. Notre réglementation va sous faisador, mais ceux-là qui l'appliquent sur terrain, certainement ce sont des hommes. Je suppose qu'à un certain moment, il y a eu des déviations. Mais tout ce que nous recommandons, que là où il y a eu des déviations, là où il y a eu des tracasseries, que ça soit dénoncé et qu'une fois chez nous, on va voir qu'est-ce que nous allons faire. Allons-nous nous taire ou allons-nous mettre face des dispositifs administratif, à même de pouvoir mettre hors d'état de nuit ses compatriotes qui se comportent très mal. Je sais que dernièrement, il y a eu un cas de maître d'assassinat et il y a une chambre foraine que nous avons tenue. Et ceux-là qui se sont mal comportés ont eu à être condamnés, sont en train de purger leur peine.
C'est un dossier signé Alain Irung. Autre nouvelle, en Boujimaï, des jeunes du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lutia, ont tenté d'organiser hier mercredi un sit-in devant le bureau de la MONUSCO. Objectif, élever la voix pour dénoncer la situation qui prévaudrait à Kamonia, dans la province du Kasaï, où il est fait état des filles détenues contre leur gré par une certaine milice. Les jeunes de la Lutia ont déposé un mémo dans lequel ils demandent l'implication de la MONUSCO en vue de la libération de ces filles. Copernic Kabeya Kanda, chargé de communication de la Lutia en Boujimaï, explique au micro de Chris Mukand.
Nous sommes venus faire un sit-in réclamant, demandant à la MONUSCO de s'impliquer pour la libération de nos sœurs, nos filles qui sont détenues dans le territoire de Kamonia, dans la province du Kasaï. Nous savons bien comment ça fait lorsqu'on est détenu illégalement, lorsqu'on fait objet plus de 60 selon les révélations des ONG de nos filles kasaïennes, sont détenues dans les mains des milices depuis 2017. Et en tant que citoyens, cela ne nous a pas laissé indifférents. Nous nous sommes levés pour demander à la MONUSCO. Nous réclamons la libération de ces filles. Leur place, c'est dans la famille. Leur place, c'est à l'école. Ils ont un rôle à jouer dans cette société. Nous avons déposé notre mémo. Et c'est bien arrivé. Nous croyons que nous avons fait notre devoir.
Signalons qu'un dispositif de la police a été déployé devant les locaux de la MONUSCO sous-bureau de Mboujimaï pour interdire cette manifestation. Le maire de Mboujimaï n'a pas accédé à la demande d'organisation de cette manifestation, selon un des responsables de la police. Toutefois, on ne déplore aucune interpellation. Le cadre de concertation de la société civile de la province du Lualaba et la Commission nationale des droits de l'homme appellent à une délocalisation urgente des habitants du quartier Kasulo 2 à Kolwezi dans le Lualaba. Dans un rapport adressé au gouvernement provincial à la fin de la semaine dernière, les deux structures indiquent que plus de 200 parcelles sont exploitées de façon artisanale par des caseurs. Les discussions sont engagées entre le gouvernement provincial du Lualaba et l'entreprise minière CDM qui détient le permis d'exploitation sur cette concession. Le point avec Denise Maheyou.
Au quartier résidentiel Kasulo 2 dans la ville de Kolwezi, l'exploitation artisanale se porte bien. Plus de 270 parcelles présentent des trous béants qui conduisent aux galeries souterraines. On y exploite des minerais bruts contenant du cobalt. Le porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Lualaba déclare que le risque de voir des maisons s'écrouler est des cas d'accident. Des enfants du quartier jouent quotidiennement sur des sacs de minerais s'exposant aux produits radioactifs. Le rapport du cadre de concertation et de la Commission nationale des droits de l'homme précise également que les galeries ont atteint la partie souterraine de la voie ferrée. Pour ces deux structures, la délocalisation des habitants de ce quartier est une urgence. Cette concession appartient à l'entreprise minière CEDEM. Au sujet de cette délocalisation, les uns demandent une indemnisation juste et équitable avant leur délocalisation et pour les autres, ils voudraient voir l'entreprise construire pour eux de nouveaux logements. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
En international, à Johannesburg, s'est ouvert ce mercredi le sommet des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Parmi les cinq grandes puissances émergentes, seuls les présidents sud-africains et chinois étaient présents au premier jour. Cyril Ramaphosa et Xi Jinping ont donné le ton de cette 10e rencontre des BRICS. Un sommet avec deux préoccupations majeures, le développement du continent africain et la riposte face aux mesures protectionnistes de Donald Trump.
I don't know.